Frédéric Nietzsche, Généalogie de la morale, deuxième dissertation, La faute, la mauvaise conscience et ce qui leur ressemble. Élever et discipliner un animal qui puisse faire des promesses, n'est-ce pas là la tâche paradoxale que la nature s'est proposée vis-à-vis de l'homme? N'est-ce pas là le véritable problème de l'homme? La constatation que ce problème est résolu jusqu'à un degré très élevé sera certainement un sujet d'étonnement pour celui qui sait apprécier toute la puissance de la force contraire, la faculté d'oubli. L'oubli n'est pas seulement une vis inertiae, comme le croient les esprits superficiels. C'est bien plutôt un pouvoir actif, une faculté d'enrayement dans le vrai sens du mot. Faculté à quoi il faut attribuer le fait que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce que nous absorbons, se présente tout aussi peu à notre conscience pendant l'état de digestion, on pourrait l'appeler une absorption psychique, que le processus multiple qui se passe dans notre corps pendant que nous assimilons notre nourriture. Fermer de temps en temps les portes et les fenêtres de la conscience, demeurer insensible au bruit et à la lutte que le monde souterrain des organes à notre service livre pour s'entraider ou s'entre-détruire. Faire silence un peu. Faire table rase dans notre conscience pour qu'il y ait de nouveau de la place pour les choses nouvelles et en particulier pour les fonctions et les fonctionnaires plus nobles, pour gouverner, pour prévoir, pour pressentir, car notre organisme est une véritable oligarchie. Voilà, je le répète, le rôle de la faculté active d'oubli, une sorte de gardienne, de surveillante, chargée de maintenir l'ordre psychique, la tranquillité, l'étiquette. On en conclura immédiatement que nul bonheur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l'instant présent ne pourrait exister sans faculté d'oubli. L'homme, chez qui cet appareil d'amortissement est endommagé et ne peut plus fonctionner, est semblable à un dyspeptique, et non seulement semblable. Il n'arrive plus à en finir de rien. Eh bien, cet animal nécessairement oublieux, pour qui l'oubli est une force et la manifestation d'une santé robuste, s'est créé une faculté contraire, la mémoire. Par quoi, dans certains cas, il tiendra l'oubli en échec, à savoir dans les cas où il s'agit de promettre. Il ne s'agit donc nullement de l'impossibilité purement passive de se soustraire à l'impression, une fois reçue, ou du malaise que cause une parole, une fois engagée, et dont on n'arrive pas à se débarrasser, mais bien de la volonté active de garder une impression, d'une continuité dans le vouloir, d'une véritable mémoire de la volonté. De sorte que, entre le primitif « je ferai » et la décharge de volonté proprement dite, l'accomplissement de l'acte, tout un monde de choses nouvelles et étrangères, de circonstances et même d'actes de volonté, peut se placer sans inconvénient et sans qu'on doive craindre de voir céder sous l'effort cette longue chaîne de volonté. Mais combien tout cela fait supposer de choses? Combien l'homme, pour pouvoir ainsi disposer de l'avenir, a dû apprendre à séparer le nécessaire de l'accidentel, à pénétrer la causalité, à anticiper et à prévoir ce que cache le lointain, à savoir disposer ses calculs avec certitude, de façon à discerner le but du moyen. Et jusqu'à quel point l'homme lui-même a dû commencer par devenir appréciable, régulier, nécessaire, pour les autres comme pour lui-même et ses propres représentations, pour pouvoir enfin répondre de sa personne en tant qu'avenir, ainsi que le fait celui qui se lie par une promesse. 2. C'est là précisément la longue histoire de l'origine de la responsabilité. Cette tâche d'élever et de discipliner un animal qui puisse faire des promesses a pour condition préalable, ainsi que nous l'avons déjà vu, une autre tâche, celle de rendre d'abord l'homme déterminé et uniforme jusqu'à un certain point, semblable parmi ses semblables, régulier et par conséquent appréciable. Le prodigieux travail de ce que j'ai appelé la moralité des mœurs, conféré Aurore, aphorisme 9, 14, 16. Le véritable travail de l'homme sur lui-même pendant la plus longue période de l'espèce humaine, tout son travail préhistorique, prend ici sa signification et reçoit sa grande justification, quel que soit d'ailleurs le degré de cruauté, de tyrannie, de stupidité et d'idiotie qui lui est propre. Ce n'est que par la moralité des mœurs et la camisole de force sociale que l'homme est devenu réellement appréciable. Plaçons-nous par contre au bout de l'énorme processus, à l'endroit où l'arbre mûrit enfin ses fruits, où la société et sa moralité des mœurs présentent enfin au jour ce pourquoi elle n'était que moyen. Et nous trouverons que le fruit le plus mûr de l'arbre est l'individu souverain, l'individu qui n'est semblable qu'à lui-même, l'individu affranchi de la moralité des mœurs, l'individu autonome et supermoral, car autonome et moral s'excluent. Bref, l'homme a la volonté propre, indépendante et persistante. L'homme qui peut promettre, celui qui possède en lui-même la conscience fière et vibrante de ce qu'il a enfin atteint, par là, de ce qui s'est incorporé en lui, une véritable conscience de la liberté et de la puissance. Enfin, le sentiment d'être arrivé à la perfection de l'homme. Cet homme affranchi qui peut vraiment promettre, celui du libre arbitre, ce souverain, comment ne saurait-il pas quelle supériorité lui est ainsi assurée sur tout ce qui ne peut pas promettre et répondre de soi? Quelle confiance, quelle crainte, quel respect il inspire! Il mérite tout cela. Et qu'avec ce pouvoir sur lui-même, le pouvoir sur les circonstances, sur la nature, et sur toutes les créatures de volonté plus bornée et de relations moins sûres, lui est nécessairement remis entre les mains. L'homme libre, le détenteur d'une vaste et indomptable volonté, trouve dans cette possession son étalon de valeur. En se basant sur lui-même pour juger les autres, il vénère ou méprise. Et, de même qu'il honore fatalement ceux qui lui ressemblent, les forts sur qui on peut compter, ceux qui peuvent promettre, donc chacun de ceux qui promettent en souverain, difficilement, rarement, après mûre réflexion, de ceux qui sont avares de leur confiance, qui honorent lorsqu'ils se confient, qui donnent leur parole comme quelque chose sur quoi l'on peut tabler, puisqu'il se sent assez fort pour pouvoir la tenir en dépit de tout, même des accidents, même de la destinée. De même, il sera fatalement prêt à chasser d'un coup de pied les misérables roquets qui promettent alors que la promesse n'est pas de leur domaine. Abattre de verge le menteur déjà parjure au moment où la parole passe sur ses lèvres. La fière connaissance du privilège extraordinaire de la responsabilité, la conscience de cette rare liberté, de cette puissance sur lui-même et sur le destin, a pénétré chez lui jusqu'aux profondeurs les plus intimes, pour passer à l'état d'instinct, d'instinct dominant. Comment l'appellera-t-il cet instinct dominant, à supposer qu'il ressente le besoin d'une désignation? Ceci n'offre pas l'ombre d'un doute. L'homme souverain l'appelle sa conscience. 3. Sa conscience? On devinera dès l'abord que l'idée de conscience que nous rencontrons ici dans un développement supérieur jusqu'à l'étrangeté a derrière elle une longue histoire, l'évolution de ses formes. Pouvoir répondre de soi et répondre avec orgueil, donc aussi pouvoir s'approuver soi-même. C'est là, je l'ai dit, un fruit mûr, mais aussi un fruit tardif. Combien longtemps ce fruit a dû rester âpre et acide, suspendu à l'arbre. Et pendant un temps plus long encore, on ne voyait rien de ce fruit. Personne n'aurait pu présager sa venue, quoique tout dans l'arbre y fût préparé, quoique l'arbre lui-même n'eût d'autre raison que de croître en vue de ce fruit. Comment à l'homme animal faire une mémoire? Comment, sur cette intelligence du moment, à la fois obtuse et trouble, sur cette incarnation de l'oubli, imprime-t-on quelque chose assez nettement pour que l'idée en demeure présente? Ce problème, très ancien comme bien l'on pense, n'a pas été résolu par des moyens précisément doux. Peut-être n'y a-t-il même rien de plus terrible et de plus inquiétant dans la préhistoire de l'homme que sa mnémotechnique. On applique une chose avec un fer rouge pour qu'elle reste dans la mémoire. Seul ce qui ne cesse de faire souffrir reste dans la mémoire. C'est là un des principaux axiomes de la plus vieille psychologie qu'il y ait eu sur la Terre, et malheureusement aussi de la psychologie qui a duré le plus longtemps. On pourrait même dire que partout où il y a aujourd'hui encore sur la Terre, dans la vie des hommes et des peuples, de la solennité, de la gravité, du mystère, des couleurs sombres, il reste quelque chose de l'épouvante qui jadis présidait partout aux transactions, aux engagements, aux promesses. Le passé, le lointain, l'obscur et le cruel passé nous anime et bouillonne en nous lorsque nous devenons graves. Cela ne se passait jamais sans supplice, sans martyrs et sacrifices sanglants, quand l'homme jugeait nécessaire de se créer une mémoire. Les plus épouvantables holocaustes et les engagements les plus hideux, par exemple le sacrifice du premier-né, les mutilations les plus répugnantes, entre autres la castration, les rituels les plus cruels de tous les cultes religieux, car toutes les religions sont en dernière analyse des systèmes de cruauté. Tout cela a son origine dans cet instinct qui a su deviner dans la douleur l'adjuvant le plus puissant de la mnémotechnique. Dans un certain sens, tout l'ascétisme est dans ce domaine. Quelques idées doivent être rendues ineffaçables, inoubliables, toujours présentes à la mémoire, fixes, afin d'hypnotiser le système nerveux et intellectuel tout entier, au moyen de cette idée fixe, et par les procédés et les manifestations de l'ascétisme, on supprime au profit de ces idées la concurrence des autres idées. On les rend inoubliables. Plus l'humanité a eu mauvaise mémoire, plus l'aspect de ses coutumes a été épouvantable. En particulier, la dureté des lois pénales permet d'évaluer les difficultés qu'elle a éprouvées pour se rendre maîtresse de l'oubli et pour maintenir présente à la mémoire de ses esclaves du moment, soumise aux passions et aux désirs, quelques exigences primitives de la vie sociale. Nous autres, Allemands, nous ne nous regardons certes pas comme particulièrement cruels et impitoyables, encore moins comme d'un caractère essentiellement léger et insoucieux de la veille et du lendemain. Eh bien, que l'on considère notre ancienne organisation pénale, et l'on se rendra compte des difficultés qu'il y a sur la terre pour élever un peuple de penseurs. Je veux dire, le peuple de l'Europe où l'on trouve aujourd'hui encore le maximum de confiance, de gravité, de mauvais goût et de sens des réalités. Du peuple qui, par ces qualités-là, s'est assuré le droit de faire l'éducation de toute espèce de mandarinat en Europe. Ces Allemands ont eu recours aux moyens les plus atroces pour se faire une mémoire qui les rendit maîtres de leurs instincts fondamentaux. Ces instincts qui étaient populaciers et d'une lourde brutalité. Que l'on se rappelle les anciens châtiments en Allemagne, entre autres la lapidation. Déjà, la légende faisait tomber la meule sur la tête du coupable. La roue, cette invention toute spéciale du génie germanique dans le domaine du châtiment. Le supplice du pal, l'écrasement sous les pieds des chevaux, l'écartèlement, l'emploi de l'huile ou du vin où l'on faisait bouillir le condamné, encore au XIVe et au XVe siècle. Et toutes les différentes variétés de torture, le supplice des lanières, l'écorchement de la poitrine. Quelquefois, on enduisait aussi le malfaiteur de miel, et sous un soleil ardent, on le laissait exposer aux piqûres des mouches. Grâce à de pareils spectacles, de pareils drames, on arrive enfin à fixer dans la mémoire 5 ou 6 « je ne veux pas », rapport à quoi l'on a donné sa promesse afin de jouir des avantages de la société. Et vraiment, à l'étude de ce genre de mémoire, on arrive enfin à la raison. Hélas, la raison, la gravité, l'empire sur les passions, toute cette machination ténébreuse que l'on appelle la réflexion, tous ces privilèges pompeux de l'homme, combien chèrement ils se sont fait payer, combien de sang et d'horreur se trouvent au fond de toutes les bonnes choses. 4. Mais comment donc cette chose ténébreuse, la conscience de la faute, comment tout cet appareil qu'on appelle la mauvaise conscience est-il venu au monde? Par là, nous revenons à nos généalogistes de la morale. Je le répète, ou ne l'ai-je peut-être pas encore dit, ils ne font pas de bonne besogne. Une expérience personnelle, à peine longue de 5 aunes, et moderne, rien que moderne. Aucune connaissance du passé, aucun désir de le connaître. Encore moins l'instinct historique, ce qui constituerait une seconde vue indispensable ici. Et pourtant, ils veulent s'attaquer à l'histoire de la morale. Forcément, ils aboutiront à des résultats qui n'ont avec la vérité que des rapports excessivement lointains. ces généalogistes de la morale? Se sont-ils seulement doutés, même en rêve, que, par exemple, le concept moral essentiel, faute, tire son origine de l'idée toute matérielle de dette, ou bien que le châtiment, en tant que représailles, s'est développé indépendamment de toute hypothèse au sujet du libre arbitre ou de la contrainte, au point qu'il faut toujours d'abord un haut degré d'humanisation pour que l'animal homme commence à établir la distinction entre des notions beaucoup plus primitives, telles que à dessein, par négligence, par hasard, capable de discernement, et leur contraire, pour les mettre en rapport avec la sévérité du châtiment. Cette idée, aujourd'hui si générale et en apparence si naturelle, si inévitable, cette idée qu'on a dû mettre en avant pour expliquer comment le sentiment de justice s'est formé sur Terre, je veux dire l'idée que le criminel mérite le châtiment parce qu'il aurait pu agir autrement, est en réalité une forme très tardive et même raffinée du jugement et de l'induction chez l'homme. Celui qui la place au début se méprend grossièrement sur la psychologie de l'humanité primitive. Pendant la plus longue période de l'histoire humaine, ce ne fut absolument pas parce que l'on tenait le malfaiteur pour responsable de son acte qu'on le punissait. On n'admettait donc pas que seul le coupable devait être puni. On punissait plutôt, comme aujourd'hui encore, les parents punissent leurs enfants, poussés par la colère qu'excite un dommage causé et qui tombe sur l'auteur du dommage. Mais cette colère est maintenue dans certaines limites et modifiée par l'idée que tout dommage trouve quelque part son équivalent, qu'il est susceptible d'être compensé, fût-ce même par une douleur que subirait l'auteur du dommage. D'où a-t-elle tiré sa puissance, cette idée primordiale, si profondément enracinée? Cette idée peut être indestructible aujourd'hui que le dommage et la douleur sont des équivalents. Je l'ai déjà révélé plus haut. Des rapports de contrat entre créanciers et débiteurs qui apparaissent aussitôt qu'il existe des sujets de droit. Des rapports qui, à leur tour, ramènent aux formes primitives de l'achat, de la vente, de l'échange, du trafic en un mot. Lorsque nous nous imaginons ces rapports de contrat, il nous vient, il est vrai, comme les remarques qui précèdent peuvent déjà le faire présumer, des soupçons et des antipathies de toute espèce à l'égard de cette humanité primitive qui a imaginé ou toléré ces rapports. C'est là que l'on promet, c'est là qu'il s'agit de faire une mémoire à celui qui promet. C'est là encore, on peut le soupçonner, que la dureté, la cruauté, la violence trouveront libre carrière. Le débiteur, pour inspirer confiance en sa promesse de remboursement, pour donner une garantie du sérieux, de la sainteté de sa promesse, pour graver dans sa propre conscience la nécessité du remboursement sous forme de devoir, d'obligation, s'engage, en vertu d'un contrat, auprès du créancier, pour le cas où il ne paierait pas, à l'indemniser par quelque chose d'autre qu'il possède, qu'il a encore en sa puissance, par exemple son corps, sa femme, sa liberté, voire même sa vie, ou bien, sous l'empire de certaines influences religieuses, son salut éternel, le salut de son âme, et jusqu'à son repos dans la tombe. Tel en Égypte, où le cadavre du débiteur ne trouvait pas de grâce devant le créancier. Il est vrai que, chez les Égyptiens, une idée particulière se rattachait à ce repos. Mais le créancier pouvait notamment dégrader et torturer de toutes les manières le corps du débiteur. Par exemple, en couper telle partie qui parut en proportion avec l'importance de la dette. En se basant sur cette manière de voir, il y eut partout et de bonne heure des évaluations précises, parfois atroces dans leur minutie. Des évaluations ayant force de droit des divers membres et parties du corps. Je regarde déjà comme un progrès, comme la preuve d'une conception juridique plus libre, plus haute, plus romaine, ce décret de la loi des 12 tables, établissant qu'il était indifférent que dans ce cas le créancier prit plus ou moins, si plus minus fue sequerunt, ne fraude esto. Rendons-nous compte de la logique qu'il y a dans cette forme de compensation. Elle est assez étrange. Voici en quoi consiste l'équivalence. Au lieu et place d'un avantage qui compense directement le dommage causé. Donc, au lieu d'une compensation en argent, en bienfonds, en possession d'une chose quelconque, il est accordé au créancier une sorte de satisfaction en manière de remboursement et de compensation. La satisfaction d'exercer en toute sécurité sa puissance sur un être réduit à l'impuissance, la volupté de faire le mal pour le plaisir de le faire, la jouissance de tyranniser. Et cette jouissance est d'autant plus vive que le rang du créancier sur l'échelle sociale est plus bas, que sa condition est plus humble, car alors le morceau lui paraîtra plus savoureux et lui donnera l'avant-goût d'un rang social plus élevé. Grâce au châtiment infligé au débiteur, le créancier prend part aux droits des maîtres. Il finit enfin, lui aussi, par goûter le sentiment anoblissant de pouvoir mépriser et maltraiter un être comme quelque chose qui est au-dessous de lui, ou du moins, dans le cas où le vrai pouvoir exécutif et l'application de la peine ont déjà été délégués à l'autorité, de voir, du moins, mépriser et maltraiter cet être. La compensation consiste donc en une assignation et un droit à la cruauté. VI. C'est dans cette espèce du droit d'obligation que le monde des concepts moraux, faute, conscience, devoir, sainteté du devoir, a son foyer d'origine. À ses débuts, comme tout ce qui est grand sur la terre, il a été longuement et abondamment arrosé de sang. Et ne faudrait-il pas ajouter que ce monde n'a jamais perdu tout à fait une certaine odeur de sang et de torture? Pas même chez le vieux Kant. L'impératif catégorique a un relent de cruauté. C'est ici aussi que cet étrange enchaînement d'idées, aujourd'hui peut-être inséparable, l'enchaînement entre la faute et la souffrance, a commencé par se former. Encore une fois, comment la souffrance peut-elle être une compensation pour des dettes? Faire souffrir causait un plaisir infini en compensation du dommage et de l'ennui du dommage. Cela procurait aux parties lésées une contre-jouissance extraordinaire. Faire souffrir, une véritable fête, d'autant plus goûtée, je le répète, que le rang et la position sociale du créancier étaient en contraste plus frappant avec la position du débiteur. ceci présenté comme probabilité, car il est difficile de voir, au fond de ces choses souterraines, outre que l'examen en est douloureux. Et celui qui, lourdement, introduit ici l'idée de vengeance, ne fait que rendre les ténèbres plus épaisses au lieu de les dissiper. La vengeance amène au même problème. Comment faire souffrir peut-il être une réparation? Il répugne à ce qu'il me semble, à la délicatesse, ou plutôt à la tartufferie d'animaux domestiqués, lisez les hommes modernes, lisez nous-mêmes, de se représenter avec toute l'énergie voulue jusqu'à quel point la cruauté était la réjouissance préférée de l'humanité primitive et entrait comme ingrédient dans presque tous ses plaisirs. Combien naïf, d'autre part, combien innocent apparaît son besoin de cruauté. Combien, justement, la méchanceté désintéressée ou, pour employer l'expression de Spinoza, la sympathia malevolens apparaît chez elle, par principe, comme un attribut normal de l'homme. Donc, comme quelque chose à quoi la conscience puisse hardiment répondre oui. Un œil pénétrant reconnaîtrait peut-être encore aujourd'hui chez l'homme des traces de cette joie de fête primordiale et innée chez lui. Dans « Par-delà le bien et le mal », aphorisme 188, et déjà avant cela dans « Aurore », aphorisme 18, 77, 113, j'ai indiqué, d'une façon circonspecte, la spiritualisation et la déification toujours croissante de la cruauté, dont on retrouve des traces dans toute l'histoire de la culture supérieure. On pourrait même dire, d'une façon générale, que toute culture supérieure en est faite. En tous les cas, il n'y a pas si longtemps encore, on n'aurait pu s'imaginer ni noces princières, ni fêtes populaires de grand style sans exécution capitale, sans supplice ou quelques autodafés. Et, de même, toute maison d'un train quelque peu noble était impossible sans des êtres sur qui on put donner libre cours à sa méchanceté et à sa moqueuse cruauté. Que l'on songe à Don Quichotte, à la cour de la Duchesse. En lisant aujourd'hui Don Quichotte tout entier, il nous vient sur la langue un petit arrière-goût amer. Notre esprit est au supplice. Ce qui paraîtrait étrange et même incompréhensible à l'auteur et à ses contemporains, car il lisait ce livre avec la conscience la plus tranquille, comme s'il n'y avait rien de plus gai, comme si c'était à mourir de rire. Voir souffrir fait du bien. Faire souffrir plus de bien encore. Voilà une vérité. Mais une vieille et puissante vérité capitale, humaine, trop humaine. À quoi du reste, les singes déjà souscriraient peut-être. On raconte, en effet, que par l'intervention de bizarres cruautés, ils annoncent déjà pleinement l'homme. Ils préludent, pour ainsi dire, à sa venue. Sans cruauté, point de réjouissance. Voilà ce que nous apprend la plus ancienne et la plus longue histoire de l'homme. Et le châtiment aussi a de belles allures de fête. 7. Ces réflexions, soit dit en passant, n'ont point pour but d'amener de l'eau nouvelle au moulin grinçant et discordant du dégoût de la vie, pour la plus grande satisfaction de nos pessimistes. Au contraire, j'atteste ici expressément qu'au temps où l'humanité n'avait pas encore honte de sa cruauté, la vie sur terre s'écoulait avec plus de sérénité qu'à notre époque de pessimisme. L'assombrissement de la voûte céleste au-dessus de l'homme a toujours grandi en proportion avec la honte que l'homme éprouvait à la vue de l'homme. le regard pessimiste et fatigué, la défiance vis-à-vis de l'énigme de la vie, la glaciale négation dictée par le dégoût de la vie. Ce ne sont pas là les signes caractéristiques des époques les plus méchantes du genre humain. Au contraire, en vrais végétaux des marécages, ils ne viennent au jour que quand se forme le marécage qui est leur terrain. J'entends le maladif aveulissement et le moralisme qui finissent par apprendre à l'animal homme à rougir de tous ses instincts. On passe de devenir un ange, pour ne pas employer un mot plus dur. L'homme s'est attiré cet estomac gâté et cette langue chargée qui non seulement lui ont inspiré le dégoût pour la joie et l'innocence de l'animal, mais lui ont rendu la vie même insipide. De sorte que, parfois, il se penche sur lui-même en se bouchant le nez et, avec le pape Innocent III, dresse d'un air morose le catalogue des infirmités de sa nature. Procréation impure, nutrition dégoûtante dans le sein de la mère, mauvaise qualité de la substance dont l'homme tire son développement, mauvaise odeur, sécrétion de salive, d'urine et d'excréments. Aujourd'hui que l'on avance toujours la douleur comme premier argument contre l'existence, comme le problème le plus fatal de la vie, on fera bien de se rappeler le temps où l'on portait un jugement contraire, parce qu'on ne pouvait se passer de faire souffrir, y trouvant un attrait de premier ordre, un véritable appât pour la vie. Peut-être à cette époque, soit dit en manière de consolation pour les gens sensibles, la douleur ne faisait-elle pas aussi mal qu'à présent? C'est ainsi du moins qu'un médecin qui a soigné des nègres a pu en conclure. Les nègres, considérés comme représentants de l'homme préhistorique, car les ayant traités dans des cas d'inflammation interne d'une gravité extrême, d'une gravité telle qu'elle pousserait au désespoir les Européens, les mieux organisés, il a remarqué qu'ils se tenaient parfaitement. La courbe de l'aptitude à la douleur chez l'homme semble en effet s'abaisser extraordinairement et tomber d'un coup dès que l'on a dépassé les premiers 10 000 ou 10 millions de notre hyper-civilisation. Pour ma part, je ne doute pas qu'au prix d'une unique nuit de souffrance, d'une seule de nos femmelettes minées par la culture et l'hystérie, les douleurs de toutes les bêtes dont jusqu'à présent on a interrogé les chairs palpitantes dans le but scientifique ne soient qu'une quantité négligeable. Peut-être est-il même permis d'admettre la possibilité que la délectation que procure la cruauté n'ait pas vraiment disparu. Il lui faudrait seulement de la subtilité à proportion du mal plus grand que cause la douleur. Elle devrait surtout s'avancer sous les couleurs de l'imagination et de l'âme, parée de noms si rassurants que la conscience la plus délicate et la plus hypocrite n'en put concevoir de l'ombrage. La compassion tragique est un de ces noms. Les nostalgies de la croix en sont un autre. Ce qui révolte à vrai dire contre la douleur, ce n'est pas la douleur en soi, mais le non-sens de la douleur. Pourtant, ni pour le chrétien qui avait fait entrer dans la douleur tout un mécanisme secret de salut, ni pour l'homme naïf des anciens temps qui savait interpréter toute douleur par rapport au spectateur ou au bourreau, un pareil manque de signification n'existait. Pour pouvoir chasser du monde la douleur cachée, irrévélée et sans témoin, pour pouvoir la nier de bonne foi, on fut alors presque obligé d'inventer des dieux et des créatures intermédiaires à tous les degrés des hauteurs et des profondeurs. Bref, quelque chose qui erre, même parmi les choses cachées, qui regarde dans les ténèbres et qui ne manque guère un spectacle intéressant et douloureux. À l'aide de pareilles inventions, la vie parvint à accomplir le tour de force dont elle fut de tout temps coutumière, le tour de force de se justifier son propre mal. De nos jours, il faudrait peut-être se servir pour cela d'autres inventions. Par exemple, faire de la vie une énigme, un problème de la connaissance. Tout mal est justifié, du moment qu'un dieu se complète à le regarder. Ainsi parle l'ancienne logique du sentiment. Et à tout prendre, n'était-ce vraiment que la logique ancienne? Les dieux tenus pour amateurs de spectacles cruels, en combien d'endroits cette notion primitive perce encore au milieu de notre humanisation européenne. Qu'on se renseigne, par exemple, à ce sujet, chez Calvin et chez Luther. Il est certain, en tout cas, que les Grecs, encore, ne trouvaient point de condiment plus piquant à ajouter au bonheur de leur dieu que les plaisirs de la cruauté. De quels yeux croyez-vous donc que les dieux d'Homère, dans l'idée du poète, contemplaient le destin des hommes? Quel sens avait, en dernière analyse, la guerre de Troie et d'autres horreurs tragiques? Il n'y a à cela aucun doute. C'était des jeux pour réjouir les regards des dieux. Et comme le poète est d'espèce plus divine que le reste de l'humanité, c'était aussi, dans une certaine mesure, des réjouissances pour les poètes. Plus tard, les philosophes moralistes de la Grèce pensaient de même que l'attention des dieux demeurait fixée sur les luttes morales, l'héroïsme et les tortures que s'imposaient les vertueux. L'Hercule du devoir était sur un théâtre, et il le savait. La vertu sans témoin était pour ce peuple de comédiens une chose absolument inimaginable. Cette invention des philosophes, si téméraire et si néfaste, que l'Europe connut alors pour la première fois l'invention du libre arbitre, de l'absolue spontanéité de l'homme dans le bien et dans le mal, ne dut-elle pas surtout son origine au besoin de se créer une espèce de droit à imaginer l'intérêt que portent les dieux aux hommes, à la vertu humaine, et l'intérêt qui ne saurait s'épuiser? Sur cette scène du monde, il ne devait jamais y avoir la pénurie de nouveautés véritables, d'intérêts vraiment soutenus, de péripéties, de catastrophes. Un monde conçu selon un déterminisme parfait pourrait être aisément deviné par les dieux. Pourtant, à leurs yeux, il eût été ennuyeux en peu de temps. C'est là une raison suffisante pour que ces amis des dieux, les philosophes, n'imposent pas à leurs dieux le spectacle d'un monde aussi déterministe. Toute l'humanité antique est pleine de tendresse et d'égards pour le spectateur, puisque c'était là un monde vraiment fait pour les yeux, et qui ne pouvait concevoir le bonheur sans spectacles et sans fêtes. Et, je le répète, le châtiment aussi a de telles allures de fête. VIII. Reprenons notre enquête où nous l'avons laissée. Le sentiment du devoir, de l'obligation personnelle, a tiré son origine, nous l'avons vu, des plus anciennes et des plus primitives relations entre individus. Les relations entre acheteurs et vendeurs, entre créanciers et débiteurs. Ici, la personne s'opposa pour la première fois à la personne, se mesurant de personne à personne. On n'a pas trouvé de degré de civilisation, si rudimentaire soit-il, où l'on ne remarqua déjà quelque chose de la nature de ces relations. Fixer des prix, estimer des valeurs, imaginer des équivalents, échanger, tout cela a préoccupé à un tel point la pensée primitive de l'homme qu'en un certain sens, ce fut la pensée même. C'est ici que la plus ancienne espèce de sagacité a appris à s'exercer. C'est ici encore que l'on pourrait soupçonner le premier germe de l'orgueil humain, son sentiment de supériorité sur les autres animaux. Peut-être le mot allemand « Mensch » Mana exprime-t-il encore quelque chose de ce sentiment de dignité. L'homme se désigne comme l'être qui estime des valeurs, qui apprécie et évalue, comme l'animal estimateur par excellence. L'achat et la vente avec leur corollaire psychologique sont antérieurs même aux origines de n'importe quelle organisation sociale. De la forme la plus rudimentaire du droit personnel, le sentiment naissant de l'échange, du contrat, de la dette, du droit, de l'obligation, de la compensation, s'est transporté après coup sur les complexions sociales les plus primitives et les plus grossières dans leur rapport avec des complexions semblables. En même temps que l'habitude de comparer puissance à puissance, de les mesurer et de les calculer. L'œil s'était dès lors accommodé à cette perspective, et avec le pesant esprit de suite propre au cerveau de l'homme primitif, qu'il est difficile de mettre en branle, mais qui poursuit impitoyablement la direction, une fois prise, on en arrive bientôt à la grande généralisation. Toute chose a son prix, tout peut être payé. Ce fut le canon moral de la justice, le plus ancien et le plus naïf, le commencement de toute bonté, de toute équité, de tout bon vouloir, de toute objectivité sur la terre. La justice, à ce premier degré, c'est le bon vouloir entre gens de puissance à peu près égale, de s'accommoder les uns des autres, de ramener l'entente au moyen d'un compromis. Quant aux gens moins puissants, on les contraignait à accepter entre eux ce compromis. 9. En se servant toujours des mesures des temps anciens, ces temps existent d'ailleurs de tous les temps et sont toujours de nouveau possibles, les rapports de la communauté avec ses membres sont, dans leurs grandes lignes, ceux du créancier avec ses débiteurs. On vit dans une communauté. On jouit des avantages de la communauté. Et quels avantages ! Il nous arrive aujourd'hui de ne pas les apprécier à leur valeur. On y est protégé et épargné dans sa demeure, jouissant de la paix et de la confiance, à l'abri de certains dommages et de certains actes d'hostilité. À quoi l'homme du dehors qui ne vit pas en paix est exposé. Un Allemand sait ce que « Elend » signifiait primitivement, selon que l'on s'est engagé envers la communauté qui accorde sa protection contre ses déprédations et ses violences. Dans le cas contraire, qu'arrivera-t-il ? La communauté, le créancier frustré, se feront payer de leur mieux, cela ne fait point de doute. Il ne s'agit pas ici, en première ligne, du dommage immédiat causé par l'auteur du dommage. Le coupable est en outre un fauteur de rupture, un violateur de traité, manquant de parole envers la communauté qui lui assurait les avantages et les agréments dont il a jusqu'alors eu sa part. Le coupable est un débiteur qui, non seulement, ne rembourse pas les avances à lui faites, mais encore s'attaque à son créancier. Selon toute justice, il est dès lors privé non seulement de tous ses biens et de tous ses avantages, mais on lui rappelle encore toute l'importance qu'avait la possession de ses avantages. La colère des créanciers lésés et de la communauté le rend à l'état sauvage, le met hors la loi, lui refuse sa protection, et toute espèce d'acte hostile peut se commettre contre lui. Le châtiment, à ce degré des mœurs, est simplement l'image, la mimique de la conduite normale à l'égard de l'ennemi détesté, désarmé, abattu, qui a perdu tout droit non seulement à la protection, mais encore à la pitié. C'est donc là le droit de guerre et le triomphe du vae victis, dans toute son inexorable cruauté. C'est ce qui explique pourquoi la guerre même, y compris le culte des sacrifices guerriers, a revêtu toutes les formes sous lesquelles le châtiment apparaît dans l'histoire. 10. À mesure que s'accroît sa puissance, une communauté accorde moins d'importance au manquement de ses membres, puisque ses membres ne lui paraissent plus ni dangereux pour l'existence de l'ensemble, ni subversifs dans la même mesure. Le malfaiteur n'est plus chassé et privé de la paix. Le courroux général ne peut plus, comme jadis, se donner libre carrière contre lui. Bien plus, on défend maintenant soigneusement le malfaiteur contre cette colère. On le protège surtout contre ceux qui ont subi le dommage immédiat. Le compromis avec la colère de ceux qui ont tout d'abord souffert du méfait, les forts tentés pour le cas et obviés ainsi à une effervescence, à un trouble plus grand ou même général, la recherche d'équivalents pour accommoder toute l'affaire, la composition, avant tout, la volonté toujours plus arrêtée de considérer toute infraction comme pouvant être expiée et par conséquent d'isoler, du moins dans une certaine mesure, le délinquant de son délit. Tels sont les traits qui caractérisent toujours plus clairement le droit pénal dans les phases subséquentes de son développement. Si la puissance et la conscience individuelle s'accroissent dans une communauté, le droit pénal toujours s'adoucira. Dès qu'un affaiblissement ou un danger profond se manifeste, aussitôt les formes plus rigoureuses de la pénalité reparaissent. Le créancier s'est toujours humanisé dans la même proportion qu'il s'est enrichi. En fin de compte, on mesure même sa richesse au nombre des préjudices qu'il peut supporter sans en souffrir. Il n'est pas impossible de concevoir une société ayant conscience de sa puissance au point de se payer le luxe suprême de laisser impuni celui qui l'a lésé. Que m'importe en somme mes parasites, pourrait-elle dire alors, qu'ils vivent et qu'ils prospèrent, je suis assez forte pour ne pas m'inquiéter d'eux. La justice, qui a commencé par dire « tout peut être payé, tout doit être payé », est une justice qui finit par fermer les yeux et par laisser courir celui qui est insolvable. Elle finit, comme toute chose excellente en ce monde, par se détruire elle-même. Cette autodestruction de la justice, on sait de quel beau nom elle se pare. Elle s'appelle la grâce. Elle demeure, comme l'on pense, le privilège des plus puissants, mieux encore, son au-delà de la justice. 11. Un mot ici contre des tentatives récentes pour chercher l'origine de la justice sur un tout autre terrain, celui du ressentiment. Je dirais d'abord à l'oreille des psychologues, à supposer qu'ils leur prennent fantaisie d'étudier un jour le ressentiment de près, cette fleur s'épanouit aujourd'hui dans toute sa beauté parmi les anarchistes et les antisémites, comme elle s'est du reste toujours épanouie dans l'ombre, pareille à la violette, bien que la senteur en soit différente. Et, comme des choses semblables naissent nécessairement les choses semblables, on ne s'étonnera pas que, précisément dans ces milieux, des tentatives soient faites, et ce n'est pas la première fois, voyez plus haut, paragraphe 3, pour sanctifier la vengeance sous le nom de justice, comme si la justice n'était au fond qu'une transformation du sentiment de l'offense ressentie, et pour mettre en honneur, avec la vengeance, l'ensemble de toutes les émotions réactives. ce dernier point me choque moins que tout autre. Il me semblerait même être un mérite par rapport au problème biologique tout entier, par rapport à quoi la valeur de ses émotions a jusqu'ici été cotée trop bas. Je tiens seulement à attirer l'attention au fait que c'est de l'esprit du ressentiment même qu'est sortie cette nouvelle nuance d'équité scientifique, au profit de la haine, de l'envie, du dépit, de la défiance, de la rancune, de la vengeance. Car cette équité scientifique disparaît pour faire place à des accents d'inimitié mortelle et à de criantes préventions, sitôt qu'il s'agit d'un autre groupe d'émotions dont, me semble-t-il, la valeur biologique est encore beaucoup plus haute que celle des émotions réactives, et qui, par conséquent, méritent en première ligne d'être examinées et hautement prisées par la science. Je veux parler des véritables émotions actives, telles que l'ambition, la cupidité et autres semblables. Eugène Düring, Valeur de la vie, cours de philosophie, et du reste, partout. Voilà pour la tendance en général. Pour ce qui en est de l'axiome de Düring, que l'origine de la justice doit être cherchée dans les régions du ressentiment, du sentiment réactif, il faut, par amour pour la vérité, le renverser brutalement et lui opposer cette autre thèse, à savoir: le dernier domaine conquis par l'esprit de justice est celui du ressentiment, du sentiment réactif. Lorsqu'il arrive réellement que l'homme juste reste juste même envers celui qu'il a lésé, juste et non point seulement froid, mesuré, dédaigneux, indifférent, être juste implique toujours une condition positive. Lorsque, même sous l'assaut des offenses personnelles, des insultes, des soupçons, il conserve inaltérable l'objectivité haute, claire, profonde et tendre à la fois de son regard juste et qui juge, eh bien, alors, il nous faudra reconnaître quelque chose comme la perfection incarnée, comme la plus haute maîtrise sur la terre, quelque chose en tous les cas à quoi l'on fera bien de ne pas s'attendre, à quoi l'on ne devra certainement pas croire trop légèrement. En thèse générale, il est certain que, même chez les personnes les plus intègres, il suffira d'une petite dose de perfidie, de méchanceté et d'insinuation pour faire monter le sang à la tête et en chasser l'équité. L'homme actif, agressif, même violemment agressif, est encore 100 fois plus près de la justice que l'homme réactif. Aussi n'est-il nullement nécessaire pour lui, comme ferait, comme devrait faire l'homme réactif, de juger son objet faussement et de parti pris. C'est pourquoi, en effet, à toutes les époques, l'homme agressif étant plus fort, plus courageux, plus noble, a eu aussi en partage l'œil le moins prévenu et la meilleure conscience. D'autre part, on devine déjà qui a sur la conscience l'intervention de la mauvaise conscience, l'homme du ressentiment. Enfin, qu'on jette donc un regard sur l'histoire. Dans quelle sphère s'est donc jusqu'à présent exercée l'action du droit ? Dans quelle sphère le besoin du droit s'est-il fait sentir? Dans celle de l'homme réactif? Nullement. Mais bien dans celle de l'être actif, fort, spontané, agressif. Au risque de blesser l'agitateur que je viens de nommer, qui, lui-même, se surprend à faire cet aveu singulier, la doctrine de la vengeance traverse toujours mes écrits, toutes mes aspirations, comme le fil rouge de la justice. Je dirais qu'au point de vue historique, le droit sur la terre est précisément l'emblème de la lutte contre les sentiments réactifs, de la guerre que livre à ses sentiments des puissances actives et agressives, qui consacrent une partie de leur force à arrêter ou à entraver le débordement de la passion réactive et à le réduire à un accommodement. Partout où la justice est exercée, où la justice maintient son pouvoir, on voit une puissance forte vis-à-vis d'autres puissances plus faibles et dépendantes, que ce soit des groupes ou des individus, chercher à mettre un terme aux fureurs insensées du ressentiment, soit en arrachant l'objet du ressentiment des mains de la vengeance, soit en déclarant la guerre de son côté, au lieu et place de la vengeance, aux ennemis de la paix et de l'ordre, soit en inventant des compromis qu'elle propose et impose même en certaines circonstances, soit enfin en donnant force de loi à certains équivalents des préjudices, à quoi dès lors on renverra les ressentiments contraires et réactifs. Et cette mesure, il la prend toujours quand il est assez fort pour cela. C'est l'intervention de la loi, l'explication sous forme d'ordre de ce qui, à ses yeux, est juste et permis, de ce qui est injuste et prohibé. En traitant, après l'institution de la loi, les actes arbitraires et les violations des individus ou des groupes comme des violations de la loi, comme des refus d'obéissance au pouvoir suprême, le pouvoir suprême détourne l'attention du subordonné des dommages produits immédiats de ces violations et arrive, à la longue, au but absolument opposé à celui que se propose la vengeance qui, elle, se place uniquement au point de vue de l'individu lésé et n'épouse que son intérêt. Dès lors, l'œil est exercé à une appréciation toujours plus impersonnelle du fait incriminé, même l'œil de l'individu lésé lui-même, bien qu'en tout dernier lieu, comme je l'ai déjà fait remarquer. Conséquemment, ce n'est que depuis l'institution de la loi qu'il peut être question de justice et d'injustice, et non pas, comme le veut Düring, depuis que l'acte de violation est commis. Parler de justice et d'injustice en soi n'a point de sens. Une infraction, une violation, un dépouillement, une distinction en soi, ne pouvant être évidemment quelque chose d'injuste, attendu que la vie procède essentiellement, c'est-à-dire dans ses fonctions élémentaires, par infraction, violation, dépouillement, destruction, et qu'on ne saurait l'imaginer procédant autrement. Il faut même s'avouer quelque chose de plus grave encore, c'est que, au point de vue biologique le plus élevé, les conditions de vie par quoi s'exerce la protection légale ne peuvent jamais être qu'exceptionnelles, en tant qu'elles sont des restrictions partielles de la volonté de vie, proprement dite, qui tend à la domination, et qu'elles sont subordonnées à sa tendance générale sous forme de moyens particuliers, c'est-à-dire de moyens de créer des unités de domination toujours plus grandes. Imaginez une organisation juridique, souveraine et générale, non comme arme dans la lutte des complexions de puissance, mais comme arme contre toute lutte générale. Quelque chose, enfin, qui serait conforme au cliché communiste de Düring, une règle qui ferait tenir toutes les volontés pour égales, et vous aurez un principe ennemi de la vie, un agent de dissolution et de destruction pour l'humanité, un attentat à l'avenir de l'homme, un symptôme de lassitude, une voie détournée vers le néant.